Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Grâce à Mzati nous informe.
L'affaire mettant en cause l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour détournement présumé de 19 millions de dollars américains, s'est poursuivie ce lundi 4 août devant la Cour de cassation ici à Kinshasa. À cette audience publique, Christian Kaloumé, expert de l'autorité de régulation des marchés publics, qui a comparu comme témoin, a expliqué la loi relative à la procédure de la passation des marchés publics. Vous l'entendrez dans quelques instants. 4 morts, des maisons incendiées et plusieurs villages vidés de leurs habitants. Bilan des affrontements du week-end dernier entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo de la paix céleste dans des villages du groupement Bouabo, territoire des Massifs au Nord Kivu. Restez avec nous pour plus de détails. Notre invité est le président de la Mutuelle pour la solidarité des chauffeurs. Sherden Ngoï propose des solutions pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa en fustigeant notamment la multiplication des services publics sur les principales artères de la capitale. Bonjour à tous. Détournement présumé des fonds publics. La Cour de cassation a poursuivi ce lundi l'audience publique au procès contre Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice. Plusieurs témoins attendus à la barre pour les comptes de la défense n'ont pas répondu présents, faute d'état pour les atteindre selon la Cour. Seuls 12 témoins invités par le ministère public et la Cour se sont présentés. Et parmi eux, l'expert de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, Christian Kaloumé, qui a comparu. Il a expliqué la loi relative à la procédure de la passation des marchés public avec un accent particulier sur les délais des 10 jours d'approbation du marché. La Cour a renvoyé la cause à demain mercredi pour la suite des auditions des témoins. On écoute ici l'expert de l'ARMP répondre aux questions des juges. Il est au micro de Jeff Ngoï.
La loi dit ceci. L'autorité approbatrice dispose d'un délai de 10 jours pour approuver le marché. S'il n'approuve pas le marché, dans les 10 jours courent à partir de quel moment? À partir du moment où vous introduisez votre requête pour solliciter l'approbation. Si dans les 10 jours, l'autorité approbatrice n'a pas approuvé le marché, et bien, conséquence logique, le marché est approuvé de manière tacite.
L'autorisation tacite est-elle acquise même lorsque les conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire de vérifier toutes les pièces n'ont pas été versées?
La disposition dit ceci, conformément au décret mentionné, le refus d'approbation de marché est notifié à l'autorité contractante dans un délai ne dépassant pas 10 jours calendaires. À défaut d'une décision expresse, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. L'acte d'approbation valide le marché et lui confère le caractère définitif, exécutoire et exigible. J'explique. Pour que le contrat, l'autorité approbatrice, qu'on considère une approbation tacite, l'acte générateur, c'est la requête.
Entre-temps, le ministre de la Justice ad intérim, Samuel Mbemba, s'est rendu ce lundi à Kasangulu pour s'enquérir de la situation liée à l'évasion survenue 2 jours plus tôt à la prison de ces territoires du Congo central. Sur place, Samuel Mbemba a organisé une réunion au bureau du territoire avec tous les responsables des services de sécurité, l'administrateur du territoire et les gouverneurs des provinces. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Après cet échange, le patron de la justice congolaise s'est rendu à la prison de Kasangulu pour non seulement faire l'état des liens, mais également tenir une causerie morale avec les détenus. Samuel Mbemba a assisté à un procès en flagrance contre des détenus récupérés après avoir tenté de s'évader de la prison de Kasangulu. Lors de cette audience organisée par le tribunal de paix de Kasangulu, le ministère public a requis 5 ans de prison ferme et une amende de $500 américains. À la sortie de cette audience, l'administrateur du territoire de Kasangulu a fait le point de la situation devant la presse. Paul Mibanga.
Le ministre est arrivé ici pour une raison noble. La nuit du 1er août au 2 août, il y a eu évasion dans la prison centrale de Kasangulu. Le ministre est venu s'enquérir de la situation. Il a connu des mobiles de cette évasion. Il y a eu 19 évadés, dont 2 récupérés. Nous sommes descendus avec lui-même pour visiter les prisonniers. Il leur a prodigué les conseils pour éviter les récidivismes.
Cette visite de terrain traduit la volonté du gouvernement congolais de restaurer l'autorité de l'État et de renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires du pays.
Sécurité à présent. En Nord Kivu, une 50aine de maisons incendiées et 4 civils tués, dont une femme et son bébé. C'est le bilan des affrontements du week-end dernier dans les villages Kibarangiriro et Kihuma, groupement Bouabo, secteur Osobanyungu, territoire de Masisi. Ces affrontements ont opposé les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo du groupe APCLS. Certaines sources de la société civile qui dénoncent et condamnent ces violations des droits humains indiquent que plusieurs villages du groupement Bouabo sont vidés de leur population. Le point avec Rachel Kessembangu.
La situation sécuritaire reste très volatile dans plusieurs villages du groupement Bouabo, affirme de sources locales. Elles ajoutent que dans la localité de Bouloua, Kibarangiriro, plusieurs dizaines de maisons auraient été incendiées lors de ces affrontements. 4 personnes ont été tuées, dont une femme et son nourrisson. Une dizaine de personnes restent disparues depuis vendredi dernier. Mardi et mercredi dernier, les villages de Kiouma, Bouloua, Mafouo et Louchébéré du même groupement ont été systématiquement pillés. À l'issue de ces affrontements qui ont duré toute la semaine dernière dans la zone, nos sources ajoutent que plusieurs agglomérations du groupement de Bouabo se sont vidées de leur population. Certains déplacés se sont dirigés vers Massissi Centre et Nyamaboko Premier, tandis que d'autres ont pris la direction du territoire de Walikale. La société civile locale condamne ces attaques qu'elle attribue aux belligérants et qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité.
Non loin de là, dans les territoires de Rutshuru, toujours au nord Kivu, de nouveaux combats ont opposé ce lundi les rebelles AFC M23 au Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC dans plusieurs villages du groupement Kihondo dans la chefferie de Bwito. Certaines sources dans la zone indiquent que les Wazalendo CMC ont lancé depuis 10 heures locales des attaques simultanées contre l'AFC M23, entre autres dans les villages Mubirubiru et Kieye sur l'axe routier Mweso Katiru. En fin de semaine dernière, l'AFC M23 avait demandé à la population de la zone de vider les lieux, ce en prélude aux opérations de ratissage de la zone qui hébergerait, selon ces mouvements rebelles, les groupes de Nyatura et présumés FDLR. Ces déplacés sont concentrés pour la plupart dans la localité de Mweso, territoire de Masisi. D'autres ont pris la direction de Katiru, dans le Bwito. Ici, à Kinshasa, le calme est revenu au quartier Badiading, dans la commune de Selembao. C'est après l'arrestation en fin de semaine d'un groupe de présumés bandits présentés comme auteurs de l'attaque de plusieurs parcelles jeudi dernier sur l'avenue Poutou-Panzo. Attaque ayant fait un mort et des blessés. Des cas de viol ont aussi été enregistrés. Le bourgmestre affirme que des mesures sécuritaires y sont renforcées en attendant des solutions durables. Il appelle les habitants à signaler tout cas suspect aux chefs des rues et des quartiers, notamment pour investigation. Mathias Womumu l'a dit à Carole Mbouyou.
La situation aujourd'hui dans le quartier Badiading est calme parce que depuis l'événement malheureux, nous avons pu prendre un peu de dispositions sécuritaires pour que cette partie de la commune soit sécurisée. En attendant la construction d'un poste de police qui va commencer le mercredi. Le criminel armé ont été arrêtés à notre niveau. On était déjà limité comme il y a aussi des policiers impliqués, d'autres personnes qui habitent la province voisine du Congo central aussi impliquées. On a demandé que le dossier soit transmis au PECRIM, dont les instructions sont en cours. Nous avons échangé avec le procureur de la République du parquet de Kalamu pour que, après les investigations, on organise l'audience foraine ici et on les condamne publiquement parce que les 2 victimes des viols sont prises en charge par la commune au niveau de l'hôpital et sanatorium. Le message que vous administrez est pour tous les Kinois de collaborer avec les services de sécurité. En restant vigilants, nous pouvons et aussi la sécurité.
Province de l'Ituri, 12 morts et 11 blessés graves en un seul mois de juillet sur les routes de la ville de Bounia. C'est ce que déplorent les responsables urbains de la police des circulations routières qui ont rendu public ces bilans ce lundi, ce qui porte à au moins 50 morts depuis le début de cette année. Jean-Claude Lokidile nous en parle.
Au total, 33 accidents de la circulation ont été enregistrés en juillet. Parmi eux, 4 blessés légers, 11 blessés graves, 12 morts et d'importants dégâts matériels. Des chiffres qui s'ajoutent à ceux du premier semestre, portant à 39 le nombre total des personnes ayant perdu la vie sur les routes de Bounia depuis janvier. Mais que se passe-t-il sur les voiries de la ville? Excès de vitesse, mauvais dépassement, croisement hasardeux, ivresse au volant, non-respect des distances de sécurité sont là les causes multiples. Et ce n'est pas tout, la modernisation des routes, saluée pourtant par les habitants, semble paradoxalement provoquer un relâchement des conducteurs. Le sous-commissaire principal Paulin Tandema.
Les usagers de la route ne respectent pas les limitations de vitesse dans les agglomérations. Les usagers ont tendance à rouler à vive allure. Pour eux, le bon état de la route est synonyme de excès de vitesse. Or, la loi interdit, dans l'agglomération, il y a une vitesse maximale qu'on peut rouler. Mais ne pas respecter ça, c'est ça ce qui fait en sorte que beaucoup d'usagers tombent dans les cas d'accidents de circulation routière.
La commune de Chiari est la zone la plus touchée par ces accidents selon les statistiques livrées par la police. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, au lendemain de l'accident tragique qui a coûté la vie au commissaire provincial de la police du Congo central, Bertin Yao Soumanda, la Commission nationale de prévention routière, CNPR Congo central, s'est prononcée hier sur la principale cause de ces drames. Berio Kavangu, son responsable, affirme qu'il s'agit de l'excès de vitesse de la Jeep de la police qui roulait à vive allure dans une zone résidentielle. Il appelle les autorités tant provinciales que nationales à accompagner la CNPR dans la sensibilisation des usagers de la route. Radio Kapimata dit, Nana Plurishimambu.
Après avoir reçu les rapports de ses agents basés à Kimpese en territoire de Songololo où s'est produit cet accident, la Commission nationale de prévention routière du Congo central, CNPR, affirme que la Jeep du commissaire provincial de la police du Congo central roulait à vive allure. Beryl Yokavangu en est le directeur provincial.
La CNPR condamne et avec regret la faute qu'a commise le conducteur de la Jeep qui n'a pas respecté la distance que prévoit le code de la route car il roulait à tombeau ouvert dans une zone résidentielle. Or, le conducteur est censé dérouler à une vitesse adapté.
Du côté de l'état-major commandement de la police du Congo central, Henri Mwalwanto, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire, évoque un bilan d'un mort et d'un blessé. Il s'agit du garde du corps de l'infortuné. Son chauffeur est en cavale. La même source affirme que pour l'heure, c'est le colonel Ado Baoundoua, commissaire provincial adjoint chargé de l'administration, qui assume l'intérim du commissaire provincial de la police du Congo central, décédé au cours de ces tragiques accident de circulation. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Par ailleurs, des cas d'incendie continuent d'être enregistrés dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Hier, aux environs de midi, des dizaines de maisons sont parties en fumée au quartier Founou, précisément à l'endroit appelé Breski. Ronelim Tibonera nous en parle.
Une fois de plus, plusieurs ménages viennent de tout perdre dans ce nouvel incendie. Le feu, particulièrement violent, a tout ravagé sur son passage, ne laissant aucune chance aux habitants de sauver leurs biens. Dans cette zone difficile d'accès pour le véhicule anti-incendie, le dévouement des jeunes du quartier a permis de limiter les dégâts. Le saint incendie survient au lendemain des deux autres sinistres majeurs rapportés dans la même ville. Le premier, survenu entre samedi et dimanche, a laissé une centaine de ménages sans abri sur les avenues Irambo et Albert Premier dans le quartier Nyalukemba, commune d'Ibanda. Dimanche, vers midi, une dizaine de maisons ont également pris feu dans la commune de Bagira. Pour l'instant, la cause de ces incendies reste inconnue. Ce lundi matin, nos sources à Bukavu indiquent que le conseil urbain a lancé une opération d'identification des réflexions afin de trouver des solutions durables pour contrer ces flammes. Depuis le mois de juillet, une dizaine d'incendies ont touché la ville de Bukavu, jetant des centaines de ménages dans la rue.
Merci à vous, Ronéline Tibonera. La province du Maïndombe vient d'adopter pour la toute première fois un plan de développement provincial couvrant la période 2026-2030. Ce document stratégique vise à encadrer et orienter les actions de développement à moyen terme dans un contexte souvent marqué par des défis institutionnels et des attentes sociales élevées. C'est ce qu'indique ce lundi M. Mapeki, le chargé de communication du gouverneur des provinces. Selon lui, ce plan se veut un outil de transformation territoriale. Il s'articule autour des 5 piliers principaux, chacun décliné en plusieurs axes stratégiques, avec pour ambition de stimuler la croissance économique, renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie des habitants.
Actualité internationale.
Dans sa réunion, ce lundi 4 août, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a cependant pas levé la suspension du Soudan au sein de l'Union africaine. Une grande déception pour Khartoum qui n'a pas encore réagi officiellement. L'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide sont incités à reprendre les processus politiques, seuls issus au conflit qui dure depuis 28 mois. Cet organe chargé des conflits et des questions de sécurité avait suspendu ces pays en octobre 2021 suite au coup d'état de l'armée contre le pouvoir civil. Depuis, le Soudan demande la réévaluation de sa situation, mais sans succès.
L'invité.
Le président de la Mutuelle pour la solidarité des chauffeurs recommande aux conducteurs de bus taxis, bus et autres engins roulants de respecter le code de la route et aux agents publics d'observer le code d'éthique et de déontologie afin de lutter contre les embouteillages monstres à Kinshasa. Chardengo y condamne la multiplication des services publics sur les principales artères de la capitale. Il propose également à l'État de refaire le marquage au sol, d'aménager des arrêts officiels pour éviter les stationnements intempestifs qui aggravent la congestion routière. Chardengo y répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Chardengoui.
Bonjour Monsieur le journaliste.
La ville de Kinshasa, comme tant d'autres du pays, font face aux embouteillages. Que faut-il faire selon vous pour mettre fin à ces fléaux?
Nous pensons que nous devons remédier rapidement pour stopper cet élan de désordre routier, cet élan d'incivisme routier et fiscal, et rappeler tout le monde à l'ordre. En commençant d'abord par l'observance de notre code de la route, nous avions aussi dit qu'il y a le code d'éthique et déontologie de l'agent public de l'État qu'il faudra observer. Nous, au niveau de l'Amitié pour la sécurité des chauffeurs au Congo, nous stigmatisons d'abord le problème du désordre routier. Il y a un peu plus de manque de sanctions.
Quand vous parlez de manque de solutions, donc vous faites allusion aux autorités.
Autorités, oui, que ce soit du côté agent division urbaine des transports, que ce soit du côté police de circulation routière, mais nous condamnons chaque fois aussi l'immixtion des autres services de la police que nous qualifions au niveau de la mutuelle pour la sécurité des chauffeurs au Congo comme des unités de police de trop. En principe, ils devraient venir appuyer la PCR et être sous le commandement du responsable de la police de circulation routière. Parce que c'est cette unité-là qui est qualifiée pour réguler, pour faire tout ce qu'il y a comme constatation de vue, d'erreur, de faute chaussée, sur la chaussée et procéder par la verbalisation devant un OPJ. Et puis, il y a la procédure qui s'ensuit avec la note de perception et le paiement.
Que répondez-vous à ce qui accuse le conducteur d'être à la base des embouteillages vécus surtout dans la ville de Kinshasa?
Oui, je ne peux pas le nier. Sincèrement, nous sommes aussi parmi ceux-là qui commettent des bavures. C'est pourquoi on les appelle les chauffards. Et c'est pourquoi nous, au niveau de la MITE, nous avions même déjà présenté au niveau du ministre provincial des Transports un plan qui consistait à délocaliser les arrêts. Pourquoi nous devons stationner sur la chaussée? On vous dira qu'à côté là, il y a un marché. Mais entre-temps, on nous dit que là-bas, les Aouenzete. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Qu'on aménage les espaces, et même les véhicules officiels, ils stationnent comment? Alors qu'on nous indique avec des marquages au sol, qu'on nous indique avec des panneaux de signalisation, pour que tous nous puissions nous conformer aux exigences de notre code de la route.
Les passagers se plaignent de demi-terrain. Y a-t-il moyen d'y remédier?
Bien sûr, pour y remédier, nous sommes du côté encadrement. Nous sommes en train de donner des enseignements, de tenter avec les moyens de bord, d'éduquer, de former nos concitoyens. Mais ça demande beaucoup de moyens. Par exemple, si aujourd'hui nous avons suffisamment de bus Transco avec des chauffeurs véritablement recrutés dans les normes, est-ce que vous pensez qu'il y aura des demi-terrains? Le gouvernement provincial, pourquoi n'arrive pas-t-il jusqu'au jour d'aujourd'hui de lancer une société provinciale de transport, peut-être une société moderne de transport pour les Quinois et Quinois?
Alors, monsieur Chardengoï, si on vous demandait d'adresser un petit message à vos collègues chauffeurs, que diriez-vous?
Chers amis chauffeurs, nous prenons le professionnalisme, nous prenons à ce que notre travail puisse redorer l'image d'antan. Un taximène, c'est un monsieur. Un taximène, c'est une profession, c'est un métier noble. Évitons tout ce qu'on est en train de nous reprocher. Notre mauvais langage, notre mauvaise façon de s'habiller. Est-ce que nous entretenons même nos bureaux mobiles? Le véhicule, c'est un bureau mobile. Elle vous permet de vous déplacer, moyennant ces commerces-là. Le client monte, il descend, tout ça. Un bon chauffeur doit être un manager. Il est temps d'abandonner l'incivisme routier. Il est temps d'abandonner l'incivisme fiscal. Demandons à nos propriétaires de nous donner de l'argent ou d'aller carrément. Mais le chauffeur n'a qu'à payer sa taxe de stationnement. Nous sommes en train de faire une large campagne pour que le chauffeur puisse acheter cette taxe-là.
Monsieur Chardengoï, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Le président de la Mutuelle pour la solidarité des chauffeurs était interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi prend fin ce journal, mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa et supervisé par Poly Mouzalia. Vous pouvez les réécouter sur www.radiomaria.org. radiokapi.net. Merci de l'avoir écouté et bonne suite de la matinale avec Kaki Akewa.